Radio Kapi. Le journal Billy Van Lutumba à la présentation.
À l'entame de ce journal vespéral sur Radio Kapi, nous nous attardons sur le séjour du secrétaire général adjoint en charge des opérations du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Il a visité quelques sites dans la partie est de la RDC, notamment à Tchoumé en Ituri, bien avant le point de presse qu'il vient de tenir cet après-midi dans le Nord Kivu. À suivre également dans ce journal, ces revendications du personnel enseignant dans le Bandundu, ils ont besoin de leur salaire qui traîne encore à les parvenir. Ils sont descendus sur la rue pour une pression afin qu'ils recouvrent leurs droits. Nous parlons de la gestion du site des déplacés de Kingonze dans la province de l'Ituri avec Désiré Grodia-Bapi, son président. Un site se trouvant dans une situation humanitaire particulière et préoccupante. C'est tout de suite en fin de ce journal. Aimable auditeur, le plaisir est immense de vous retrouver pour un partage des nouvelles d'actualité au pays. Radio Okapi, toujours à votre service de l'information. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Nous parlons tout d'abord de cette conférence de presse que vient de tenir Jean-Pierre Lacroix à Goma quelque peu avant de mettre fin à sa mission en RDC. Parmi les questions qui lui ont été posées figure celle liée à la désinformation, l'un des principaux obstacles aux opérations de maintien de la paix en RDC. Que fait concrètement la MONUSCO pour lutter contre ce fléau? Écoutez la réponse de Jean-Pierre Lacroix dans cet extrait choisi par Jude Mister Bilanda.
C'est une arme qui tue, que crée une fausse nouvelle. En accusant tel ou tel, ça crée des réactions en retour et vous avez des phénomènes où ça se termine par des morts civiles, ça se termine aussi parfois par des victimes du côté des collègues des Nations Unies. Alors, que faire? Je pense d'abord que c'est un travail collectif, que la responsabilité des journalistes est considérable. Je sais que c'est pas toujours très facile, mais de dissocier précisément, de distinguer ce qui est des informations et ce qui est la vérité. Je pense que collectivement, il nous appartient d'abord d'être proactifs pour dire quels sont les faits, pour nous évidemment dire ce que nous faisons. Je crois aussi qu'il faut développer une connaissance technique des nouveaux moyens de propagation de la désinformation, réponse à la désinformation. Nous avons au niveau du maintien de la paix une stratégie digitale qui comprend un programme de lutte contre la désinformation. Mais je pense qu'il faut aussi un état d'esprit différent. C'est une arme, la désinformation, il faut considérer qu'on y répond comme on pourrait répondre à tout autre armement. Et la meilleure manière de se défendre, c'est d'être proactif. Surtout dans le contexte que connaît l'Est de la RDC, de renforcer les efforts pour lutter contre la désinformation.
Bien avant, arrivé hier en Ituri, Jean-Pierre Lacroix s'est rendu avant Goma à Tchomia ce matin, à 60 km de Bounia, pour rencontrer la population et évaluer la situation sécuritaire et humanitaire dans la région. La société civile a exprimé ses préoccupations face à l'insécurité qui persiste. Martial Papier-Moukeba pour les détails.
À la base des casques bleus de la MONUSCO à Tchomia, Jean-Pierre Lacroix a échangé avec les forces vives de la région. La société civile locale a profité de cette rencontre pour demander une prolongation de la présence des forces de la MONUSCO. Selon eux, la sécurité n'est toujours pas totalement rétablie dans la zone et les violences continuent de menacer les civils. Jean-Pierre Lacroix a également visité un projet à impact rapide financé par la MONUSCO destiné à créer des opportunités pour les jeunes désœuvrés. Ces derniers sont souvent recrutés par des groupes armés en raison du manque d'emploi. Les femmes, quant à elles, ont plaidé pour une meilleure protection, dénonçant les viols commis par des hommes armés lorsqu'elles se rendent dans leur champ. Elles demandent que des mesures supplémentaires soient prises pour leur sécurité. Bounia, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
L'actualité nous maintient en Ituri où 8 personnes ont été tuées, d'autres portées disparues et des maisons incendiées lors d'une attaque sanglante perpétrée entre jeudi et vendredi par des miliciens de la Codeco dans les villages proches de Boulé dans le territoire de Djougou. Parmi les victimes, 4 déplacés qui ont été abattus sur le site de Plaine Savo selon des témoins. L'intervention des casques bleus de la MONUSCO et des FARDC a réussi à limiter les dégâts, mais il s'observe un déplacement massif de la population locale. Les détails avec Ezekiel Mouzalia qui revient de la zone.
Ce matin, des coups de feu ont retenti, tirés par des miliciens de la Codeco en direction du village Bombou, à 4 km de Boulé Centre, dans le groupe Manglé. Selon des sources locales, les assaillants ont tenté une nouvelle attaque contre les camps des déplacés de Lala et des Plaines Savo après l'échec de leur tentative de la veille. Cependant, l'attaque a de nouveau été repoussée par les casques bleus de la MONUSCO et les FARDC. Un paysan a été tué dans son champ, tandis qu'une femme souffrant d'hypertension a trouvé la mort en essayant de fuir vers les sites des déplacés de Savo. La société civile locale rapportait que 6 déplacés ont été tués par les miliciens de la Codeco lors de l'attaque de jeudi. 4 personnes sur les sites de Plaine Savo et 2 autres en tentant de s'échapper. Les assaillants ont également emporté des motos et d'autres biens de valeur appartenant aux déplacés. La tension demeure vive dans la région et les habitants des villages aux alentours des Boulé Centre fouillent en masse vers les zones jugées plus sécurisées. Charles Panzambiso, responsable de l'association locale des jeunes patriotes pour la paix, appelle l'armée à renforcer sa présence pour assurer la protection des civils. Des retours des boulets, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Nous nous rendons dans le sud Kivu à présent où un agent de la Caritas Bukavu a été abattu par des éléments Raia Mutomboki Wazalendo à Calais hier jeudi. Il a reçu des balles alors qu'il plaidait pour une infirmière qui subissait des tracasseries de la part de ces éléments. Son corps a été acheminé à Rambo où il a été enterré hier même. Un élu de Calais dénonce cet assassinat et sollicite la tenue d'une audience foraine à Kaon, à Kalongé, pour juger les malfaiteurs. Rachel Kessemangou revient sur les faits.
Baron Deselouchombo Dieudonné, agent de la Caritas Bukavu, a été assassiné ce jeudi au niveau de Tcholobera à Chifundi, Kalongé. Monsieur Baron Dese se rendait à Chaminounou dans le cadre de son travail en provenance de la paroisse catholique de Kalongé à Rambo où il logeait. Arrivé à la barrière de Wazalindo à Tcholobera, ces derniers lui ont tiré dessus alors qu'il intervenait pour une infirmière que tracassaient ses miliciens. Databaye Kajibouami Amédé, député national élu de Calais, dénonce cet assassinat.
Je tiens à décourager ces barrières, puisque ces Wazalendo ont érigé beaucoup de barrières où ils tracassent les paisibles citoyens, et cela dans tout Kalongé. Les tracasseries de ces Wazalendo ne permettent plus à la population d'évacuer à leurs occupations. Nous demandons aux autorités civiles et militaires de la province du Sud Kivu de voir comment renforcer les éléments FRDC et PNC dans tout Kalongé pour que la population de Kalongé puisse se sentir à l'aise.
Il sollicite également des autorités militaires et civiles de la province la tenue d'une audience foraine à Kalongé afin que les auteurs soient jugés publiquement. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Nous restons toujours dans la partie est de la RDC, mais cette fois-ci dans le Nord Kivu, où la situation humanitaire se détériore davantage depuis la reprise des combats il y a quelques semaines dans la chefferie de Bouiton, territoire de Rutshuru. Des villages entiers se sont vidés, fuyant ces affrontements violents qui opposent les rebelles du M23 et les Wazalendo. L'Organisation internationale Médecins sans frontières, MSF, présente dans la zone, dit avoir constaté des problèmes d'accès à l'eau potable, aux infrastructures hygiénique et de mauvaises conditions d'hébergement. D'après son coordonnateur de projet basé à Bambo, il est difficile de parler des chiffres car le mouvement de déplacement continue dans toute la zone de santé de Bambo. Paul-Antoine Chateng explique qu'il y a risque d'épidémie dans la zone alors qu'il y a déjà un taux élevé de malnutrition chez les enfants. Il est joint par Sifa Maguru.
Médecins sans frontières a pu constater d'importants mouvements de population vers la cité de Bambo et ce depuis la fin du mois d'août. Ils se sont accentués ces derniers jours essentiellement depuis l'aire de santé de Mouchababoué où des villages entiers se sont vidés. MSF a pu évaluer la situation dans 2 écoles qui accueillent des déplacés et a constaté des problématiques évidentes d'accès à l'eau, aux infrastructures d'hygiène de base comme les douches et les latrines, avec des risques épidémiques qui sont élevés. Les conditions d'hébergement dans ces lieux sont également inadéquates avec l'absence de moustiquaires, alors même que 70% des consultations dans les structures appuyées par Médecins sans frontières sont liées au paludisme. Avec le soutien de MSF, les soins de santé primaire sont gratuits pour les enfants de 1 mois à 15 ans au centre de santé de Faradja, qui se trouve dans la ville de Bambo. Les référencements et la prise en charge des cas avec complications sont également garantis à l'hôpital de Bambo, qui toujours avec le soutien de MSF, permet une prise en charge gratuite dans les services des urgences, de pédiatrie, mais aussi au niveau de l'unité nutritionnelle thérapeutique intensive.
Sinon que la situation reste confuse et volatile dans la zone de Bambo, indique un notable du milieu. Des tirs à l'arme lourde se sont poursuivis hier et des exactions et violations des droits de l'homme continuent à d'être enregistrées. Deuxième titre de ce journal, les enseignants des écoles publiques de la province du Maïndombé payés par la Caritas Développement exigent le paiement de leur salaire du mois d'août 2024 auprès de cette dernière. Impayés, ils n'en peuvent plus. Pour faire entendre leur voix, ils ont improvisé ce jeudi une manifestation publique dans la ville d'Inongo, chef-lieu de la province. Dans leur déclaration à l'issue de la dite marche, ces enseignants ont dénoncé le retard récurrent des paiements de leur salaire par la Caritas. Le point avec Irène Bauma.
Ces enseignants qui ont manifesté jeudi dans les rues de la ville du Nongo, chef-lieu de la province du Maïndombé, dénoncent entre autres les retards récurrents des paiements de leur salaire occasionnés par la Caritas Développement. Par exemple, jusqu'à ce jour, ils affirment n'avoir pas encore reçu leur salaire du mois d'août dernier, alors que le mois de septembre étant vers sa fin. Au cours de cette marche pacifique, les manifestants scandant des chansons ont porté des rameaux et brandis des calicots sur lesquels l'on pouvait lire « Caritas, veillez honorer nos salaires ». L'un d'eux s'est exprimé en ces termes. Nous avons marché aujourd'hui dans la ville pour montrer aux autorités que la Caritas n'a pas encore payé nos salaires du mois d'août. La Caritas nous paye toujours en retard. C'est pourquoi nous sommes descendus dans la rue pour réclamer notre droit. Nous demandons que la Caritas nous paye notre salaire du mois d'août et que nous puissions la quitter. Cette marche des professionnels de la craie de la ville du Nongo est partie de l'espace Mamayaka pour chuter au bureau de l'inspection provinciale de l'éducation en passant par le boulevard Lumumba. Nos efforts pour avoir la réaction de la Caritas Maïndombe sont restés sans succès. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Retour ici à Kinshasa. Le service national a remis hier jeudi un lot de 200 bancs à l'EP1 et de Yolo Nord dans la commune de Kialamo, première école officielle de la capitale. Ces dotations interviennent après celles de 400 bancs remis mardi dernier à deux écoles du Kanchachi. Ces bancs ont été fabriqués par les anciens délinquants ex-Kuluna devenus bâtisseurs après leur formation au service national. Pour le commandant du service national, c'est la réponse de sa structure aux instructions du chef de l'État qui a visité ces deux écoles lundi dernier. Cela démontre que le président de la République place l'éducation au centre de son action en améliorant les conditions d'apprentissage des élèves, a ainsi ajouté le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik. On l'écoute au micro de Jacques-Yves Molima.
Nous sommes là pour donner les bancs à cette école. Il y a deux écoles ici, EP1 et EP2. Il y a l'honneur pour donner les bancs selon les instructions du chef de l'État et commandant suprême. Et voilà, les bancs ont été remis ce jour. Les enfants qui étudient en ville ou qui étudient dans les bonnes conditions, les résultats qu'ils donnent, ce n'est pas pour autant dire qu'ils sont plus intelligents que ceux qui étudient dans des conditions difficiles. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'homme est le fruit de l'environnement et de l'éducation. L'environnement change l'homme, change l'enfant. En tant que commandant du service national, régulièrement je reçois les instructions pour aller dans ce sens. Construisez-moi des écoles, donnez des bancs, faites ceci ou faites cela. Les instructions en tout cas que moi je reçois régulièrement me démontrent qu'il est vraiment très attaché à l'éducation des enfants dans notre pays.
Deuxième jour ce vendredi à Lubumbashi de la troisième édition du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences. Placée sous le thème « Couverture santé universelle en RDC », cette rencontre scientifique réunit les participants et experts venus de plusieurs coins du pays et d'ailleurs. Pour l'initiateur de ce Carrefour, l'objectif est d'impliquer les experts en santé pour l'amélioration de ce programme et faire bénéficier à la population d'une santé de qualité, comme le dit Jean Gandou.
Les participants et autres experts vont, au cours des trois jours de travaux, plancher notamment sur l'évolution de la couverture santé universelle et sur le rôle des ministères de la Santé et de l'enseignement supérieur et universitaire dans son implémentation. Pour le docteur Foreman Mabala, initiateur de ce carrefour, il est question de démontrer aussi l'importance de l'anesthésie et de la réanimation dans la prise en charge des malades. Pour lui, cette troisième édition a pour objectif, entre autres, de faire une évaluation à mi-parcours de la couverture santé universelle et de l'apport des anesthésistes et réanimateurs pour son amélioration. Et pour une bonne prise en charge des malades, toujours dans le même cadre, le recteur de l'université de Lubumbashi, Gilbert Kishiba Fitula, représentant du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire à ses assises, a plaidé pour la création du service d'anesthésie et de réanimation mobile dans les milieux ruraux. Qu'en est-il alors de l'apport du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire à la couverture santé universelle? Docteur Foreman Mabala.
L'ESU met à la disposition du ministère de la Santé publique des experts et ces experts sont là pour accompagner cette vision et sa matérialisation.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Rwanda a lancé une campagne de vaccination contre la variole avec 1000 doses du vaccin qu'il a obtenu du Nigeria dans le cadre d'un accord entre les deux pays, a déclaré jeudi l'Agence africaine de la santé. Les vaccinations ont débuté mardi dans sept districts voisins de la République démocratique du Congo où vivent des populations à haut risque, a indiqué Dr Nikes Ndembi du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC. Le Nigeria a fait don de 1000 doses au Rwanda sur les 10 000 qu'il avait reçues des États-Unis. Et puis, au Gabon, dans une lettre ouverte diffusée mercredi 18 septembre au soir par ses avocats, l'ex-président gabonais Ali Bongo demande à ses compatriotes de ne pas céder à l'esprit de vengeance contre sa femme et son fils détenus depuis le coup d'État. Il reconnaît aussi les insuffisances de ses différents mandats et s'en présente comme le seul responsable. Plus d'un an après le coup d'État qui a mis fin à son mandat présidentiel, Ali Bongo Ondimba sort du silence. Dans une lettre adressée au peuple gabonais, l'ancien chef de l'État annonce son retrait définitif de la vie politique et appelle à la libération de son épouse Sylvia et de son fils Noureddine, emprisonnés depuis les événements d'août 2023.
L'invité.
Comme dit dans le sommaire, le site des déplacés de Kingonze et Abunia héberge actuellement plus de 14 000 personnes, en majorité des femmes et enfants, qui ont fui les violences à Ituri. Dans un contexte humanitaire de plus en plus préoccupant, comment la gestion du site est-elle assurée et quels sont les principaux défis? Désiré Grodia Bapi, président du site des déplacés de Kingonze, explique dans cet entretien avec Martial Papi Moukeba.
Bapi Désiré, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les déplacés du site de Kigonze dans leur vie quotidienne?
En tant que président du site Kigonze ici à Bunia, la principale difficulté, c'est d'abord non-assistance humanitaire. Pour votre information, les mamans de troisième âge, les papas de troisième âge n'osent pas supporter la famine. Nous avons déjà atterré beaucoup de ces gens-là, sont déjà morts. Les enfants sont kwashorkorés. Beaucoup d'enfants sont allés à la ville pour aller mendier. Même nos mamans, nos sœurs sont sur la ville de Bunia à train de mendier. Jusqu'à présent, nous avons eu les vivres de Mogabao. Mogabao avait remis à chaque ménage 5 litres d'huile, 1 kilo de sel, 25 kilos de la farine de maïs et 12 kilos et demi de haricots. Ça fait à peu près 5 mois depuis qu'ils avaient assisté les déplacés avec ces vivres. Mais à ce qui concerne l'assistance comme telle au site, ça fait 13 mois que les déplacés ne reçoivent plus les assistances au site. Chacun se débrouille de sa manière.
Et le site a combien de déplacés?
Nous avons 14 133 personnes. Avec une maman décédée, la vieille maman décédée le dimanche dernier, on a resté avec 14 132 déplacés au site présentement.
Quels efforts sont actuellement déployés pour améliorer les conditions de vie au syndicat, notamment en termes d'accès à l'eau, à la nourriture et aux soins de santé?
Vraiment, nous avons carence d'eau au site de Kigonze ici. On a tous 7 forages construits par ONG, OIM et Tiafound. Mais parmi ces 7 forages d'eau, 3 sont opérationnels. 4 sont à panne. Nous avons vraiment problème d'eau ici au site. Les déplacés se débrouillent de leur manière. Ils puisent à l'extérieur. Concernant les soins, n'en parlons même pas. Nous avons un centre de santé ici avec nous qui a pris seulement les mamans à 7 pour la maternité seulement. Mais si quelqu'un tombe malade, il se soigne de sa manière.
Et comment est organisée la gestion du camp? Et quelles sont les principales initiatives mises en place pour assurer la sécurité et le bien-être des déplacés?
Le site Kigonze est bien planifié. Nous avons la CNR, Commission nationale pour les réfugiés, qui est comme administrateur du site. Nous avons aussi la Caritas, qui est la gestion du site. Et nous avons le comité directeur, où je suis président du site.
Quels sont les besoins les plus urgents des déplacés du site et quelles actions attendez-vous des autorités et des ONG pour y répondre?
Les besoins les plus urgents, c'est d'abord à vivre pour les déplacés, à premier lieu. À deuxième lieu, nous avons besoin de l'eau, puisque l'eau, c'est la vie. Sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre. À terme de médicaments, nous demandons aux ONG qui interviennent dans les soins de venir en aide pour les médicaments. Mais à ce qui concerne les latrines, toutes les latrines sont déjà pleines. Il n'y a pas moyen de les vider aussi. Alors, les déplacés se débrouillent de leur façon. Ils vident les latrines à main.
Et quels sont vos espoirs pour l'avenir des déplacés de Kigonze en termes de réintégration ou de retour dans les régions d'origine?
Tout le monde est prêt de retourner dans son milieu d'origine. Malheureusement, avec les sécurités au niveau d'Ndjougou, ça ne permet pas. Pour votre information, nous avons beaucoup de cas de déplacés au niveau du territoire d'Ndjougou. Nous avons les cas de déplacés à Jina, Barrière, Lopa, Bloukwa, Boulé, Fataki, Loda, même à Chomia, Kasenyi. Tout le monde est au site. Il n'y a pas moyen de faire autrement, mais nous demanderons au chef de l'État congolais de sécuriser le territoire d'Ndjougou pour permettre aux déplacés de retourner chacun dans son milieu d'origine.
Bapi, Désiré, merci.
Moi aussi, je vous remercie.
Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition de journal, préparée par Jude Mister Abilanda, Martin Sebou-Jangwe et l'ensemble de toute la rédaction. Au nom de toute cette équipe, je vous dis sincèrement merci.